matin.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ouais, vous l'entendez, plus de 10 000 personnes hier au parc des expositions de Villepinte. Premier meeting validé pour Éric Zemmour. Rassemblement cependant émaillé de violence. Poignée foulée pour le candidat. Un homme s'est jeté sur lui. Éric Zemmour entend porter plainte. Au fond de la salle, une bagarre générale a éclaté entre des sympathisants et des militants de SOS Racisme venus manifester. Pas de quoi empêcher pour autant le candidat de présenter son programme. Victor Chabert nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous avez assisté à ce meeting pour Europe 1. Victor, Éric Zemmour a dévoilé le nom de son parti, Reconquête, et puis il a formulé plusieurs propositions, lesquelles ?
Tout d'abord, Éric Zemmour a voulu montrer qu'il avait un programme crédible, objectif, faire taire les critiques.
Économie, écologie, pouvoir d'achat, services publics, immigration, insécurité, aucun des chapitres majeurs de l'action que nous devons mener n'échappe au projet sérieux et complet que nous commencerons aujourd'hui à dévoiler aux Français.
Des propositions déjà connues pour la plupart, mais que le candidat a développées sur deux grands principes. Lutter contre ce qu'il appelle le grand remplacement et contre le grand déclassement. C'est d'ailleurs par l'économie et le pouvoir d'achat qu'il a débuté. Réduction des cotisations salariales des plus modestes, la préférence nationale pour les aides sociales, ou encore supprimer les droits de succession pour la transmission des entreprises. Sur l'immigration, Éric Zemmour propose un référendum comprenant la suppression du droit du sol, le renvoi systématique des clandestins, ou encore la déchéance de nationalité pour les criminels binationaux. L'enjeu aussi pour lui hier était de montrer finalement que sur le fond, il pouvait répondre aux préoccupations des Français.
Victor, si on avait encore un doute, hein, c'est pas l'écrivain, c'est pas le journaliste qui s'est exprimé, c'est bien le candidat à la présidentielle.
Hein. Indéniablement, il y a eu du changement. Déjà, physiquement, Éric Zemmour a parlé plus d'une heure avec assurance, droit derrière son pupitre. On ne l'avait jamais vu faire ça avant dans ses réunions publiques. Ensuite, il est allé sur le terrain de la stratégie politique. Il appelle les électeurs d'Éric Ciotti au congrès LR à le rejoindre. Le candidat veut faire l'union des droites et pour ça il drague ouvertement chez Marine Le Pen et chez Valérie Pécresse. Il dit, je cite, « Je veux rendre le droit de vote aux électeurs du Front National et je veux rendre la droite aux électeurs LR ». Éric Zemmour appelle cela le serment de Villepinte. D'ailleurs, le format de ce meeting est celui qui va être décliné tout au long de la campagne.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
Alors on verra si les meetings politiques se dérouleront comme prévu dans les semaines à venir, car le Covid malheureusement pourrait tout chambouler, la campagne présidentielle et avant cela les fêtes de fin d'année.
Hein. Ce matin, conseil de défense sanitaire pour le gouvernement, il faut tout passer en revue, ne laisser aucune porte à la cinquième vague. Faut-il revenir au télétravail systématique, au masque pour tous dans les rues? Faut-il vacciner les moins de 12 ans? Il y a de nombreuses pistes sur la table ce matin, Louis Dragnel.
Oui, le gouvernement veut concrètement lancer l'opération Sauver Noël comme il y a un an. Mais tout d'abord, rassurez-vous, l'exécutif n'envisage ni reconfinement ni couvre-feu. Il va surtout être question d'accélération de la vaccination pour la dose de rappel, vous savez, la troisième dose, avec 300 centres de vaccination qui vont ouvrir, mais aussi d'essayer de convaincre ceux qui n'ont toujours pas reçu une première dose. Sur la table également, les restaurateurs et les patrons de bar pourraient être contraints de procéder à des contrôles d'identité en plus des contrôles de passe sanitaire pour mieux lutter contre les certificats frauduleux. Pour terminer, il sera question de vaccination des enfants de moins de 12 ans, même si ce n'est pas pour tout de suite. Tant que la Haute Autorité de Santé ne s'est pas exprimée, pas de décision. Mais si elle émettait un avis favorable, le gouvernement se prépare déjà à un début de vaccination des moins de 12 ans au début du mois de janvier.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. La mesure que craignent le plus les chefs d'entreprise, c'est bien sûr la fermeture de leurs enseignes. Mais pas seulement, c'est une information Europe 1. De plus en plus de patrons s'inquiètent de ne pas pouvoir rembourser les prêts garantis par l'État. C'est ce qui ressort d'un rapport de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Carole Ferry, vous avez pu le consulter en exclusivité pour Europe 1. Alors que dit-il du moral de nos chefs d'entreprise ?
Alors, premier enseignement de cette enquête, un tiers des chefs d'entreprise craint d'avoir des difficultés à rembourser ces prêts garantis par l'État. Ils étaient 18% seulement avant l'été. La crainte principale, c'est la durée de remboursement, 4 ans. Beaucoup craignent que ce soit insuffisant. D'autant que certes, l'activité se porte mieux pour le moment, mais plus de 80% des entreprises sont confrontées à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, carburant compris. Selon François Asselin, c'est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette hausse? Est-ce qu'on arrive à la répercuter sur la clientèle, donc sur ses prix de vente? Eh bien, à peu près 10% des entreprises déclarent qu'elles ont pu le répercuter intégralement sur leurs prix de vente. Finalement, c'est très peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles puisent dans leurs marges, donc moins de bénéfices. Et puis, comme votre endettement pour un grand nombre d'entre elles ont augmenté, eh bien, les difficultés restent quand même devant nous, il faut bien le dire.
D'ailleurs, à l'avenir, plus d'un tiers des chefs d'entreprise pensaient être contraints d'augmenter ses prix. Un tiers également prévoit de réduire sa consommation d'énergie en limitant notamment les déplacements.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Le Covid, on l'apprend ce matin, responsable de 12% des arrêts maladie cette année. C'était 6% l'an dernier. Révélation du baromètre annuel de l'absentéisme publié ce matin par Malakoff Humanis.
Cela fait 23 ans qu'ils attendaient cette dernière échéance. Dimanche, les Calédoniens voteront lors du troisième référendum des accords de Nouméa.
Accord conclu en 1998 et qui vont répondre à une question. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? 185 000 électeurs doivent se prononcer. Lors des deux référendums précédents, les partisans du oui au maintien dans la France l'ont emporté. Cette fois, l'État espère encore gagner la Nouvelle-Calédonie, un archipel stratégique pour la France, à 17 000 km de Paris, dans un espace où la Chine tente d'étendre son influence. Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Et vous êtes en direct de Nouméa, envoyée spéciale d'Europe 1. On va vous retrouver toute la semaine pour couvrir cette élection. Élection capitale pour la France et pour le gouvernement, bien sûr.
Oui, le gouvernement qui s'est emparé du sujet en produisant pour la première fois ce livret détaillé, 104 pages sur les conséquences du oui et du non distribué ici à tous les électeurs calédoniens. Si les loyalistes l'emportent, l'archipel reste français. Mais un nouveau chapitre s'écrit, explique Sonia Baquès, l'une de leurs porte-parole.
On est dans quelque chose de transitoire qu'on est obligé d'arrêter pour construire quelque chose de nouveau. Ça peut être n'importe quel statut, mais à l'intérieur de la République française.
En cas de oui à l'indépendance, c'est la naissance d'un nouveau pays, la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Terminer les 1,5 milliard d'euros versés chaque année par Paris qui rappellera ses forces armées. Alors que la Chine étend, comme vous le disiez, son influence dans le Pacifique. Le document est en faveur du non, dénoncent les indépendantistes. Ils appellent à l'abstention. Impossible de faire campagne selon eux. Le Covid a tué 279 personnes ces trois derniers mois. Alexandre Chaouri est militant. Kanaky en deuil, pas de vote, peut-on lire sur sa banderole. Ce matin sur la route principale.
On a besoin de célébrer nos deuils. La majorité de ceux qui sont décédés par rapport au Covid sont des Kanaks. On ne participe pas au vote du 12 décembre.
Alors, Caroline, ce troisième référendum est éminemment sensible. Hein. Le dispositif sécuritaire déployé par Paris est absolument colossal. Hein.
Oui, du jamais vu depuis les affrontements meurtriers des années 80 ici. Près de 2000 gendarmes et policiers arrivés en renfort se montrent déjà dans les rues. Des centaines de véhicules venus de Toulon débarquent après trois mois de mer. L'objectif, anticiper des débordements dans les deux camps. Rappelez-vous, lors du deuxième référendum l'année dernière, des rassemblements pour intimider les électeurs devant les bureaux de vote avaient été dénoncés auprès du Conseil d'État.
Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. Reportage à retrouver en détail et en longueur sur notre site Europe. Un mot de sport pour finir avec de la Formule 1. Victoire de Lewis Hamilton hier au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et situation rarissime, deux pilotes à égalité parfaite au classement général, Hamilton et Verstappen. On connaîtra donc le nom du futur champion du monde lors de l'ultime course de la saison. Le week-end prochain, ce sera à Abu Dhabi.
Voilà, une vraie finale en F1. Merci Fanny Marceau.